Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Les Marches de la Foi, proposée par le service diocésain de formation continue. Catherine Mann avec vous cette semaine, je suis chargée de la formation biblique dans ce service. Comme vous le savez, nous sommes entrés ce mois-ci, depuis le 8 décembre, dans l'année sainte extraordinaire promulguée par le pape François, un jubilé de la miséricorde. À cette occasion, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de revenir sur les racines bibliques de la tradition des jubilés. Je vous propose donc un rapide retour sur les textes bibliques fondateurs dans l'Ancien Testament pour mieux comprendre tout le sens de cette année jubilaire. Un jubilé, nous dit la Bible, c'est une année sainte qui vient après 7 semaines d'années. Donc 7 fois 7 années, c'est-à-dire après 49 ans. Vous l'aurez compris, la symbolique tourne autour du chiffre 7. 7 comme 7e jour, le sabbat. Aux origines du jubilé biblique se trouve d'abord l'institution du sabbat, le shabbat, repos du 7e jour, dont Dieu lui-même a choisi de suivre le principe lors de la création du monde, puisqu'il a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e. Je vous lis chapitre 2 de la Genèse, versets 2 et 3. « Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia. » Puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait faite. Le 7e jour est donc un jour saint, consacré, et ce jour-là, on ne peut pas travailler. C'est pourquoi durant l'Exode, le peuple hébreu qui se nourrissait de la manne tombée du ciel n'avait pas le droit d'en ramasser le 7e jour. Il en recevait le double portion le 6e jour, et cela devait suffire pour 2 jours. Et lorsque Moïse reçoit de Dieu les tables de la loi, l'institution définitive de ce jour consacré devient le 4e commandement de la loi juive, ou le 3e selon notre catéchisme, rappelons-nous l'ancienne formule, « Le jour du Seigneur tu garderas en servant Dieu dévotement ». Les codes de loi devenant plus complexe avec le temps, nous voyons apparaître dans la Bible au chapitre 16 du Lévitique un Shabbat particulier une fois par an, le jour du grand pardon, Yom Kippour, pendant lequel, à l'origine, on sacrifiait de nombreux animaux dans des rites d'expiation et on chassait au désert un bouc émissaire chargé des péchés de l'année. Je vous lis le verset 30 de ce chapitre 16 du Lévitique. « C'est en effet en ce jour que l'on accomplira pour vous le rite d'expiation afin de vous purifier de toutes vos fautes. Et devant le Seigneur, vous serez purs. Ce sera pour vous un sabbat solennel durant lequel vous ferez pénitence. » Une nouvelle loi cultuelle que l'on voit apparaître un peu plus loin au chapitre 23 du Lévitique institue Shavuot, une fête 7 sabbats après la Pâque. Donc 7 fois 7 jours, 49 jours plus 1, le 50e jour, à l'époque c'est une fête des moissons, qui deviendra plus tard la fête du don de la Torah en Israël, puis notre fête chrétienne de Pentecôte, 7 semaines après Pâques. Mais le principe du sabbat ne va pas se limiter à rythmer les jours et les semaines. Il va aussi être étendu aux années. Nous voyons déjà au cours de l'Exode, selon le chapitre 23 du livre de l'Exode, apparaître l'idée de l'année sabbatique. Je vous lis le verset 10 de ce chapitre 23. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu récolteras son produit. Mais la 7e année, tu la laisseras en jachère. et tu abandonneras son produit, les pauvres de ton peuple le mangeront. Et ce qu'ils auront laissé, les bêtes sauvages le mangeront. Avec ce texte, nous commençons à comprendre qu'il n'y a pas seulement un aspect de purification dans le sabbat, mais aussi un aspect de charité dans le principe. Il y a, selon ce commandement biblique, une utilité, à savoir se retirer du circuit de la production. Ce n'est pas seulement pour se reposer, c'est aussi pour que d'autres puissent bénéficier des richesses de la terre. Mais l'aspect repos est important, car il est aussi un progrès dans la charité. Il empêche d'exploiter 7 jours sur 7 les travailleurs. Je vous lis pour cela le chapitre 23 de l'Exode, verset 12, qui est une variante du troisième commandement. « Pendant 6 jours, tu feras ce que tu as à faire, mais le 7e jour, tu chômeras afin que ton bœuf et ton âne se reposent. » et que le fils de ta servante et l'immigré reprennent souffle. Cette obligation de repos comporte déjà une loi de miséricorde. C'est une première loi sociale qui protège les salariés. Dans le livre du Deutéronome, nous retrouvons au chapitre 15 de nouvelles instructions concernant la 7e année. Donc, Deutéronome 15, versets 1 et 2. « Au bout de 7 ans, tu feras la remise des dettes. Voici comment se fera cette remise. Tout possesseur d'une créance fera remise à son prochain de ce qu'il lui aura prêté. Il n'exercera pas de poursuite contre son prochain ou son frère, puisqu'on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur du Seigneur. Voilà donc un texte fondamental de la Bible, dont bien sûr on ne parle pas souvent et qui très certainement n'a pas non plus été souvent mis en pratique. D'autant plus que la suite du texte oblige à la générosité des prêts sans tenir compte des années sabbatiques. Il ne faut pas qu'on dise « oui, mais ça sera dans 2 ans, donc je ne te prête pas ». Au contraire, le chapitre 15 va encore plus loin. Quand il évoque la détresse des surendettés qui remboursent en offrant leur force de travail gratuitement, ce qui est une forme d'esclavage. Je vous lis les versets 12 à 14. « Quand parmi tes frères hébreux, un homme ou une femme se sera vendu à toi, il te servira durant 6 ans. La 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et en ce cas, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le couvriras de cadeaux avec le produit de ton petit bétail, de ton aire à grains et de ton pressoir. Tu lui donneras à la mesure de la bénédiction du Seigneur ton Dieu. » Ce texte signifie qu'on ne profite pas de la faiblesse ou des échecs de son prochain. On doit limiter ses efforts de remboursement à une mesure supportable. Et bien plus, on lui rend sa liberté la 7e année, avec de l'aide pour repartir d'un bon pied dans la vie. Il y a derrière ces versets toute une réflexion économique. Ce n'est pas seulement de la charité, mais aussi de la justice. Je vous lis la suite, le verset 18 du chapitre 15 du Deutéronome. « Qu'il ne te semble pas pénible de le renvoyer libre de chez toi. Durant 6 ans de service, il t'aura rapporté 2 fois ce que gagne un salarié. Ainsi, le Seigneur ton Dieu te bénira en tout ce que tu feras. » Voilà donc une forme de capitalisme limitée par le principe de la remise des dettes. Nous voyons que nous n'avons pas encore atteint cette sagesse aujourd'hui. J'en viens à présent au chapitre 25 du Lévitique. Celui qui parle de l'institution de l'année jubilaire. Le début du chapitre rappelle d'abord le principe de l'année sabbatique pour le repos de la terre. J'en profite pour remarquer que si cette manière de cultiver en alternant culture et jachère avait été vraiment mise en pratique, nous n'aurions peut-être pas aujourd'hui autant de problèmes écologiques. Nous aurions depuis longtemps appris que la terre appartient à Dieu et que l'humanité n'en est que gérante, donc qu'elle n'a pas le droit de la surexploiter ni de la dégrader. J'en viens donc au verset 8 et les suivants du chapitre 25 du Lévitique qui parle de l'année jubilaire et je vous les lis. Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, dont 49 ans. Vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Ce commandement du retour, qui n'est pas très facile à comprendre et encore moins à appliquer. Il nous évoque une société très stable, avec des clans et des familles clairement différenciées, donc un système archaïque qui n'existe plus depuis longtemps. Comment transposer cette proclamation de la libération de tous les habitants aujourd'hui ? Au-delà de la remise des dettes et de la libération de tout esclavage, il est question ici de retrouver sa vraie patrie. Doit-on en déduire un nationalisme un peu extrême, une quête d'identité culturelle, un communautarisme un peu fermé ? Ce serait certainement une mauvaise compréhension de ce texte. Et c'est là que la nouveauté chrétienne doit se faire sentir en tournant le regard en priorité vers l'appartenance au royaume des cieux, vers la communauté des saints et la libération qui est celle de l'esclavage du péché et qui est venue apporter le Christ de manière universelle. C'est à présent toute la famille humaine qui doit être libérée de tout mal, de toute souffrance et de toute oppression. Et je crois que c'est bien à cela que nous invite le jubilé de la miséricorde en cette année sainte 2016, qui est la 50e année après l'achèvement du Concile Vatican II, comme nous le dit le pape François. Nous voici à présent arrivés au terme de notre émission et je vous dis au revoir à tous et très bonne année sainte.